qui concerne le message que nous apportera Jean-Claude Saillant tout à l'heure. Alors, vous allez certainement vous apercevoir que la première lecture va vous étonner, parce que c'est celle qui a été déjà considérée il y a 15 jours. Alors, quand j'ai appris cela, lorsque je conversais avec nos amis avec l'Italie, et que Jean-Claude avait déjà préparé une part de son message, je me suis dit, oups, on a déjà traité ça il y a 2 semaines, ça va faire un peu une répétition. Et alors, Jean-Claude m'a rassuré, il va traiter de ce thème des disciples d'Emmaüs, mais sous un angle différent que celui de Sylvain il y a 15 jours. Il ne faut pas en faire trop de soucis, puis c'est toujours bien de lire plusieurs fois un texte. Alors, je lis une partie du texte, parle toute, et puis Jean-Claude y reviendra par des citations. Et donc, les disciples vont à Emmaüs et rencontrent Jésus. Ils sont à l'auberge. Et à un moment, les disciples disent à Jésus, sans qu'ils sachent que c'était lui, « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. » Alors Jésus leur dit, « Oh, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, mais il disparut de devant leurs yeux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Mais notre cœur ne brûla-t-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient assemblés avec eux, et leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. »
2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu. En attendant que vienne le jour de Dieu et en attend sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera.
Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne.
Et le dernier texte, Apocalypse, chapitre 21, à partir du premier verset. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est pareille pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. »
Merci. Alors j'invite Jean-Claude à nous parler. Que le Seigneur te bénisse.
C'est une joie, aussi toujours une émotion quand on passe de nous retrouver ici à Mérin et de voir tellement de visages connus, visages amis, aussi des visages nouveaux. Et c'est vraiment un sujet de reconnaissance. Alors, nous voici donc confrontés, pour vous c'est la deuxième fois, on va vérifier si vous étiez attentifs là, lorsque Sylvain a prêché, mais enfin on va revenir sur ce texte des disciples d'Emmaüs et essayer d'en tirer quelques réflexions qui soient utiles, stimulantes pour nous. J'ai particulièrement aimé cette image du chemin, ces disciples qui sont là, le long d'un chemin, et je réfléchissais un peu au fait que l'image du chemin est un peu une métaphore de choses qui peuvent arriver pendant nos existences, pendant nos vies. Nous parlons souvent de chemin pour parler de la situation de nos vies. Nous pouvons dire que le chemin s'est fait difficile pour dire que nous passons une période qui est compliquée dans nos vies. Nous pouvons dire que nous sommes dans une impasse, dans un chemin sans issue lorsque nous affrontons des difficultés particulières et nous ne voyons pas trop comment aller de l'avant, comment affronter une situation. Nous parlons justement de rencontrer des obstacles le long de notre chemin. Lorsque quelqu'un a un comportement discutable, on dit parfois qu'il s'éloigne du droit chemin, qu'il suit une mauvaise voie. Quand nous sommes désorientés dans la vie, pas simplement lorsque nous nous promenons, nous parlons de perdre notre chemin. Et puis, nous parlons aussi, entre autres choses, de chemin spirituel. Donc, cette image des disciples me parle beaucoup et nous pouvons réfléchir à cet épisode des disciples d'Emmaüs un peu aussi dans cette perspective du chemin. Qu'est-ce qui se passe sur ce chemin? Nous voyons d'abord ces disciples, bien entendu, très, très démotivés, on va en reparler, très, très tristes et je crois que c'est aussi des situations que nous rencontrons dans le chemin de nos vies, justement. Nous avons aussi des moments où nous allons de l'avant parce qu'il faut bien faire quelque chose. La vie continue, mais nous avons peut-être perdu notre motivation. Nous n'avons plus les idées très claires. Et je crois que c'est un texte qui peut nous dire quelque chose à ce niveau-là. Voyons d'abord donc un peu le contexte de cet épisode des disciples d'Emmaüs. Nous nous trouvons donc 3 jours après la mort de Jésus, le jour de la résurrection. Les disciples n'étaient pas vraiment au courant de la résurrection. Hein, ça ressort très fortement dans le texte. Quand ils disent, il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc, difficile pour eux de comprendre ce qui est en train de se passer, difficile aussi de reconnaître Jésus qui marche à leur côté. Nous nous trouvons donc dans la période de 40 jours qui précède l'ascension de Jésus. Et c'est intéressant de réaliser et de réfléchir à ce que Jésus fait. Il est mort, il est ressuscité, il a encore à disposition 40 jours sur cette terre. Que fait-il? Ou qu'auriez-vous fait à sa place? Vous avez un message fantastique à faire passer, le message de la résurrection, et vous avez 40 jours à disposition. Réfléchissez un peu, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez des idées? Comment bien exploiter 40 jours pour faire passer un message? Est-ce qu'il y a des suggestions pour une campagne que nous pourrions organiser? Pardon? Un grand débat? Des spots à la télévision, oui? Pardon? Oui, on vient technologique, là. Peut-être qu'à l'époque, on aurait, on aurait pu louer un amphithéâtre. Enfin, on aurait essayé à sa place de rejoindre les foules et de pouvoir communiquer ce message à un maximum de monde. Que fait Jésus? Des choses complètement contre-tendance. Il va rejoindre 2 disciples et il passe du temps avec eux. Et je crois que ça peut nous dire quelque chose de très important sur le cœur de Dieu, sur la façon dont Dieu se rapporte à nous et veut aussi, au fond, nous mettre dans le bain, nous mettre dans la course et, lorsque nous sommes démotivés, nous remettre en mouvement. Mais on va y revenir. Donc, nous avons ces disciples qui sont un peu démotivés. Disons qu'au travers de leur expérience de vie avec Jésus, des grandes espérances avaient été suscitées, des attentes, et puis tout d'un coup, c'est fini. Jésus est mis à mort. Imaginez l'impact sur la vie et le moral des disciples. Les paroles du verset 21 sont éloquentes. « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà trois jours que cela est arrivé. » Donc, c'est un moment difficile. Et c'est pour cela que Jésus va rencontrer ses disciples découragés pour permettre à ses disciples de redécouvrir l'espérance et d'être à nouveau motivés. Il veut leur remonter le moral et leur confier une mission, leur confier un mandat. Une petite note au sujet de ces deux disciples. Nous savons donc que l'un d'eux s'appelle Cléopas et il y a aussi une référence dans l'évangile de Jean. Nous sommes au moment de la Pâque, il nous est dit que près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas et Marie de Magdalène. Alors pourquoi cette petite note? Il se pourrait que cette femme de Cléopas soit justement la femme de celui qui est là sur le chemin d'Emmaüs. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il se pourrait même qu'il s'agisse d'un couple. Ça, c'est intéressant, hein? On voit des fois très fortement le ministère au masculin ou très spécialisé, très par secteur. Là, Jésus rencontre probablement un couple et met en mouvement, remotive et embauche un couple pour le service de l'Évangile. C'est intéressant. Alors, je l'ai déjà dit, l'attente des disciples était très particulière. Il nous est dit, pour eux, Jésus était un prophète qui agissait et parlait avec puissance. Ben, ça, c'est une terminologie qui a une signification particulière pour des oreilles israélites dans le contexte de l'époque. J'ai trouvé que ce langage était attribué à Judas Maccabée. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Judas Maccabée? Hein, la période des Maccabées, cette période un peu d'apparent silence de Dieu pendant 4 siècles avant la venue de Jésus, une période où il y a eu justement cette révolte armée par cette famille des Maccabées. Et ce Judas Maccabée a été le leader d'une révolte qui a eu du succès puisqu'elle a amené Israël à récupérer son indépendance, à élargir ses frontières et à vivre une période de 100 années de liberté. Donc, on se rappelait de ce Judas Maccabée comme d'un prophète qui parlait et agissait avec puissance. Et on peut avoir cette intuition que pour les disciples, et peut-être pas seulement pour eux, il y avait cette perception que Jésus était en fait un nouveau Judas Maccabée, un leader, un homme fort qui aurait libéré Israël aussi par la violence. Mais voilà, Jésus a été mis à mort et de façon humiliante. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait libérer Israël. Et à présent, toute l'espérance a disparu. L'espérance est morte, elle est morte avec Jésus, elle est morte sur la croix. Et nous nous trouvons, à ce moment-là de l'histoire, face à un Messie décevant, si nous voulons utiliser cette expression. Les disciples sont profondément déçus par rapport à leur attente, déçus face à tout ce que Jésus avait suscité dans leur cœur, dans leur esprit. Ils sont démotivés, ils sont déçus. Cela peut aussi nous arriver. Cela peut aussi nous arriver d'être déçus face au Seigneur. Le problème, c'est que parfois nous avons de la peine à le reconnaître, parce que ça nous paraît terriblement dangereux ou terriblement païen de le vivre. Mais nous pouvons être aussi déçus. Parfois, nous pensons qu'une fois que nous appartenons au Seigneur, une fois que nous le suivons, ben, les choses doivent bien aller. Nous devons être récompensés dans notre vie terrestre parce que nous connaissons le Seigneur. Mais nous savons que ça ne se passe pas comme ça. Les difficultés ne nous sont pas épargnées et nous pouvons aussi passer par des moments où nous ne comprenons vraiment pas ce qui est en train de se passer. Nous pouvons aussi être profondément abattus, déprimés, démotivés. Ce texte est fort car il nous dit que Jésus rencontre les personnes déçues, les personnes qui ont perdu l'espérance et, chose importante, Jésus leur ouvre une nouvelle perspective. Jésus élargit leur vision, il change leur perspective. Il leur dit en fait, ici il n'est pas question de vous, vous n'êtes pas le centre de toute cette histoire, vous n'êtes pas le centre de tout ce qui est en train de se passer, des événements de la Pâque et ce qui va se passer maintenant. Le cadre est beaucoup plus ample, ouvrez les yeux. J'imagine presque un poil de reproche dans le langage de Jésus. Hein, Jésus qui vraiment est comme abasourdi à un moment donné, mais vous n'avez encore pas compris. Et alors, il ouvre la Bible et à travers toutes les Écritures, il leur raconte, il leur explique tout ce qui le concernait, en fait, tout ce qui concernait le plan de Dieu pour notre humanité, pour l'histoire humaine, au travers de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes déçus, lorsque nous sommes abattus, nous replions sur nous-mêmes et nous risquons de tout ramener à nous, de penser que quelque part, nous sommes le centre de tout. Il y a aussi une façon de vivre la foi, la spiritualité chrétienne, qui est aussi très centrée sur soi-même. Le salut comme une affaire très individuelle, une affaire, des fois presque purement personnelle. Ma relation avec Dieu, mon salut, et quelque part, il y a une perspective qui est très figée, c'est très, comment dire, très horizontale, et il n'y a pas grand-chose qui nous met en mouvement. Nous vivons parfois des existences trop centrées sur nous-mêmes. Nous désirons que tout doive aller tel que nous le désirons. Nous sommes très préoccupés par nous-mêmes. Et ça fait partie de notre nature humaine, mais il faut en être conscient. Lorsque... Mon tic qui revient. Lorsque parfois on vous montre une photo de groupe, hein, vous avez fait une sortie d'église, qui allez-vous chercher en premier sur la photo ? Hein? Bon, c'est un peu méchant comme truc, mais enfin, on a le droit d'aller regarder sa bobine sur une photo, mais enfin, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on est quand même pas mal centré sur nous-mêmes, et là, on voit Jésus faire quelque chose de totalement différent. En commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toute l'Écriture. Ce qui est arrivé concerne Dieu et l'histoire qu'il est en train d'écrire. Si vous préférez, c'est de comprendre vraiment pour ses disciples, mais aussi pour nous, quel est vraiment le mouvement de l'histoire, quel est vraiment le projet de Dieu pour notre histoire, quel est le sens du salut. Nous avons été réconciliés avec Dieu au travers de Jésus-Christ, en vue de quoi ? Hein ? Donc une vision trop statique du salut, c'est pas du tout ce que Jésus propose à ses disciples. Il leur montre un mouvement, il leur montre un plan, il leur dévoile quelque chose qui ne leur apparaissait pas. J'ai dans mes notes une citation que j'ai essayé de traduire, j'espère que ça ne va pas être trop mauvais en français, de C.S. Lewis, qui dit ceci. « Le christianisme est la narration de la façon dont le roi légitime a atterri dans l'histoire humaine. On pourrait dire qu'il a atterri en incognito et nous appelle tous à participer à sa grande campagne de sabotage. » Un langage un peu militaire, mais l'image de commandos qui sont parachutés en territoire ennemi, mais ça nous donne là aussi une image assez dynamique de ce qu'est l'existence chrétienne et à quel point nous devons être centrés sur les projets de Dieu. Les textes qui ont été lus vont dans cette direction, si vous avez prêté l'attention, des textes qui parlent du royaume qui vient, de la nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux, nouvelle terre. C'est la perspective qui est ouverte devant nous, c'est la perspective que Jésus est venu aussi nous présenter. Pendant son ministère, Jésus a passablement parlé du royaume de Dieu. Ça n'a pas été quelque chose qui a été ressorti après coup, mais Jésus est venu Et il a dit, au travers de ma personne, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, nous avons une espérance, nous avons une attente, c'est celle de la venue d'un royaume, le royaume de Dieu, un royaume où la paix, la justice régneront, où toutes larmes seront séchées. Nous avons cette perspective devant et nous devons vivre en fonction de cette perspective, vivre en fonction des valeurs de ce royaume et vivre en suivant celui qui nous a ouvert la voie, Jésus, qui nous a ouvert la voie vers ce royaume. Cette étude biblique rapide que Jésus fait avec les disciples d'Emmaüs a des effets très bénéfiques dans le cœur et dans le moral. N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre corps, dans notre cœur, pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Lorsque des personnes perdent l'espérance, elles ont besoin que quelque chose soit restauré aussi à un niveau beaucoup plus profond. Ce n'est pas simplement une question intellectuelle. J'aime beaucoup dans ce texte cet aspect. Jésus les rencontre aussi à un niveau très intime. Il y a un peu la dimension intellectuelle, si on veut utiliser ce terme, Jésus qui leur explique le plan, le projet de Dieu, leur ouvre les yeux sur des tas de textes qui étaient restés hermétiques pour ses disciples jusqu'alors. Et en même temps, il y a une rencontre personnelle, intime, et il y a aussi une guérison profonde au niveau du cœur. Et ça, c'est très important, parce que bien souvent, dans la vie, ce qui fait problème, ce n'est pas la compréhension intellectuelle d'une question, mais ce sont des émotions blessées, ce sont des choses qui font mal dans notre cœur et qui nous empêchent de vivre pleinement ce que nous devrions vivre. Donc, Jésus restaure l'espérance au plus profond du cœur, de l'être de ses disciples. Et c'est aussi ce qu'il désire faire pour nous aujourd'hui. Nous toucher et nous remettre en mouvement. C'est intéressant de voir ce mouvement dans le texte. Il rencontre ses disciples démotivés qui rentraient chez eux. Ils avaient posé les plaques, c'était fini. Ils y avaient cru, mais c'est un rêve qui a échoué. Jésus les rencontre avec beaucoup de tact, beaucoup de douceur. Il ne les bouscule pas, il prend du temps. Et à partir du moment où il les rejoint, à partir du moment où le cœur et l'esprit de ses disciples est touché, le mouvement repart. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas rester à l'auberge, ils rentrent à Jérusalem parce qu'ils doivent absolument communiquer cette nouvelle. Désormais, ils sont dans la juste perspective, ils sont des témoins du royaume, ils sont des témoins de l'évangile, des témoins de la résurrection. Alors, ils retournent à Jérusalem et la surprise, les autres avaient déjà reçu la nouvelle et nous savons un peu tout le dynamisme qui va animer cette église de Jérusalem. Alors, résumons. Le long du chemin de nos vies, nous avons besoin, nous aussi, de plusieurs choses. De la communauté ecclésiale, par exemple, de l'Église. La foi ne se vit pas en solitaire. Nous avons besoin de vivre en relation avec d'autres qui partagent la même espérance, la même expérience de l'amour et du pardon de Dieu. Nous avons besoin de l'encouragement, de l'énergie d'autres membres de la famille de Dieu lorsque nous sommes un peu nous-mêmes raplapla, démotivés. Nous ne devons pas nous isoler lorsque nous sommes déprimés, découragés. Ça, c'est aussi un message fort parce que notre tendance est l'isolement. Mais nous devons nous rappeler que nous sommes membres d'une famille et nous avons besoin les uns des autres. Encore une fois, ces disciples ne sont pas restés. Pensez en plus que c'était probablement un couple. Ils ne sont pas restés entre eux. Ils n'ont pas commencé à dire on va développer notre ministère individuel ou je ne sais pas quoi. Non, on revient. On rejoint les autres et ensemble, on va servir Dieu et on va marcher dans la direction qu'il nous a indiquée. Donc, nous avons besoin de cette dimension communautaire. Autre point, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'entendre une parole que le Seigneur nous adresse. Jésus a fait effectuer un voyage extraordinaire à travers la Bible à ses deux disciples et nous voyons comment cette parole de Dieu est efficace pour restaurer les personnes abattues, réchauffer les cœurs, réchauffer l'espérance. N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Donc, il y a cette dimension très forte de la parole qui agit, qui motive et au travers du Saint-Esprit qui vient réchauffer les cœurs. Enfin, nous avons besoin d'une communion profonde avec Jésus. Nous avons besoin d'une rencontre plus intime, Une rencontre que les paroles ne peuvent pas forcément expliquer, et ce n'est pas important de pouvoir l'expliquer. Une rencontre qui peut toucher profondément aussi nos blessures, nos émotions blessées, etc. Le repas des deux disciples avec Jésus est fantastique. Ce moment si intime, avec le moment de la fraction du pain et de la prière de bénédiction. Un geste intime, répété moult fois par Jésus, comme n'importe quel chef de famille dans la société israélite. Et ces paroles, reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. Et c'est dans cette atmosphère calfeutrée, j'imagine cette scène, c'est déjà passablement sombre, il y a une grande tranquillité. Et dans ce moment aussi intime, aussi fort avec Jésus à table, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. Nous avons besoin d'une communion, nous aussi, d'une communion profonde avec Jésus. Nous avons besoin de le rencontrer et de le rencontrer à nouveau dans nos moments de découragement. Voilà. Alors, les disciples d'Emmaüs, peut-être aussi une invitation pour nous à vivre dans la juste perspective. Juste dans quel sens? Pas dans le sens de devenir des petites personnes parfaites qui ne pêchent plus ou que sais-je, mais vivre dans la perspective du plan de Dieu, du projet de Dieu pour notre humanité. Un plan qui est bien plus vaste que ma vie individuelle, que tout ce que je vis personnellement, bien sûr, tout ce que je vis personnellement est important aux yeux de Dieu. Jésus lui-même l'a dit que pas un de nos cheveux tombe à terre sans que cela, que Dieu le sache. Je ne suis pas en train de nier cette dimension, mais il y a bien plus que cela. Dieu nous aime d'un amour extraordinaire. Il s'intéresse à chacun de nous d'une manière personnelle, d'une manière qui est vraiment émouvante, fantastique, mais en même temps, il veut nous faire entrer dans un mouvement, dans un projet. Son projet, c'est de partager la bonne nouvelle avec tous les hommes, toutes les femmes, partager la bonne nouvelle de Pâques et vivre dans la perspective, dans l'espoir que ce monde qui déraille passablement, on pourrait dire beaucoup de choses, je pourrais dire aussi beaucoup de choses de notre contexte de vie en Italie, ça déprime fort, c'est très dur. Et en même temps, nous avons cette perspective d'un royaume qui vient, d'un royaume où finalement la justice régnera. Finalement, toutes larmes seront séchées, toutes peines seront consolées. Ça, c'est la perspective. Vivre dans la perspective du royaume de Dieu, vivre comme des témoins aussi de cette réalité qui vient et qui a été inaugurée au travers de Jésus. Je vous propose de prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce texte qui nous parle de bien des manières, mais ce matin, ce texte nous rappelle combien tu es proche de nous lorsque nous sommes démotivés, découragés, angoissés aussi. Seigneur, tu nous rejoins dans nos circonstances de vie. Tu chemines avec nous. Et peut-être que comme les disciples d'Emmaüs, nous vivons des périodes sans nous rendre compte que tu es à nos côtés. Et nous n'avons que des mots pour dire notre déception, notre tristesse, notre ras-le-bol. Mais toi, tu es là et tu n'es pas scandalisé par nos paroles. Et Seigneur, merci par ce texte, parce que ce texte nous rappelle que tu nous parles. Et au moment opportun, Seigneur, nous entendrons ta parole. Au moment opportun, nous pourrons ouvrir nos yeux sur une perspective nouvelle, ta perspective. Pour nos vies individuelles, pour nos familles, mais aussi pour ton Église et pour notre humanité. Merci Seigneur parce que tu nous rejoins, tu nous rejoins d'une manière intime, tu viens réchauffer nos cœurs, tu viens guérir nos blessures, mais Seigneur, tu nous remets en mouvement. Seigneur, tu nous embauches dans ton projet. Et Seigneur, nous sommes tous embauchés. Et merci pour cela, merci pour cette perspective, merci pour la direction que nos vies ont, merci parce que nous sommes en chemin et nous allons tous dans la même direction. Seigneur, à toi notre remerciement et Seigneur, rejoins en particulier ce matin ceux qui sont arrivés peut-être plus chargés, ceux qui vivent une période, un chemin qui est bien montée et avec pas mal d'obstacles. Merci de ce que tu peux le faire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te louons. Amen.